Sur 103,5.
Vous savez que dernièrement, on a eu à procéder à la fermeture des entrepôts d'une entreprise minière chinoise dénommée Congo Dong Sam Mining, c'est d'ailleurs mon sigle. Cette société opérant à Lubumbashi au Katanga est accusée de fraude minière et de non-respect des conditions environnementales et d'hygiène requises. C'est du moins ce qu'on affirme. À ce jour, une enquête est diligentée pour savoir pourquoi cette société a fonctionné dans un tel désordre. Avec cette décision, est-ce qu'on peut déjà parler de la fin de la récréation dans le secteur minier en République démocratique du Congo? Nous allons le savoir puisque notre invité, c'est tout simplement le ministre des Mines, Martin Kabouloulou. Il est là pour nous informer. Monsieur le ministre, bonjour. Alors, est-ce que, pour commencer, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de la fin de la récréation dans le secteur minier en République démocratique du Congo?
Disons que c'est les débuts de la fin de la récréation, je peux le dire, parce que nous sommes en train de vérifier tout celui, d'abord, qui ne paye pas les taxes, aura des problèmes. Celui qui n'aura pas respecté les conditions environnementales aura des problèmes. Celui qui ira en dehors du code minier aura des problèmes. Voilà, tout cela, Nicole, a été discuté pendant les journées minières et nous sommes en train d'appliquer les résolutions des journées minières.
Mais c'est comme si c'est aujourd'hui qu'on se réveille. Hein. Depuis toujours, les mines ont existé en République démocratique du Congo.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que, Nicole, on a fait les journées minières. C'était pour, justement, voir l'application du code. Voilà, le code n'était pas appliqué, justement. Le code lui-même, au fond, il n'est pas mauvais. Il n'est pas du tout appliqué. Voilà pourquoi ça paraît que maintenant, c'est le début.
C'est le début.
C'est pas le début, mais c'est le début des mesures concrètes pour que le secteur minier puisse être vraiment un secteur qui est porteur de croissance.
Et là, on vient de décider de la fermeture des entrepôts chinois dans une entreprise chinoise, en fait.
Et tout à fait, parce que moi-même, j'étais le témoin oculaire. J'ai vu ce qui s'est passé dans ce dépôt. Nous y sommes entrés sans plier gare, comme on dit. J'ai trouvé un désordre indescriptible. J'ai trouvé une machine qui était en train de piler du minerai, comme on pile les mamans, les piles le pondou. Ce n'est pas comme ça qu'on doit transformer les minerais, et j'ai décidé qu'on puisse fermer cet entrepôt.
Il y a la récréation.
Tout à fait.
On revient à vous dans un instant, monsieur le ministre, juste le temps pour nous de faire le point avec Jody, et nous rappelons encore une fois nos auditeurs qui peuvent intervenir au 081-070-2050. Pour cela, qu'ils nous suivent sur le net, sur www.radiocapi.net, écrivez-nous à action@radiocapi.net. Jody Keshema, vous avez justement l'occasion de vous pencher sur cette question.
Oui.
À quelle occasion que cette décision du ministre des Mines est tombée?
Rappelons que le ministre des Mines s'était rendu à Lubumbashi pour lancer officiellement les activités du centre d'expertise et d'évaluation des substances précieuses et semi-précieuses CEC en sigle. C'était le 20 mai dernier. Et après la cérémonie de lancement, le numéro 1 des Mines a effectué une visite dans trois entreprises minières du Katanga, à savoir Somika, Chemaf et Sedem. L'autorité minière a apprécié la technologie utilisée dans les traitements des minerais dans les deux premières entreprises. Cependant, le CEDEM, selon le ministère, ne présente pas une bonne image par rapport aux autres.
Donc, il y a trois entreprises qui ont été ciblées pour commencer, de grandes, des petites entreprises, des moyennes. On ne sait pas, on aura certainement l'occasion de revenir là-dessus avec notre invité. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher exactement à cette entreprise chinoise?
D'abord, elle a reçu les autorisations de fonctionner comme une fonderie. Cependant, on a trouvé des gens en train de broyer manuellement les minerais. Et puis, la CEDEM exporte le brut malgré la mesure d'interdiction du gouverneur du Katanga. En outre, les travailleurs congolais sont soumis à des conditions de travail inhumaines. Les uns sont en babouche, sans tenue de travail, les entrepôts sont insalubres, poussiéreux, et pire encore, les minerais sont broyés de manière artisanale. Voilà autant des raisons qui ont poussé le ministre à prendre la décision de fermer les entrepôts des CEDEM en attendant les résultats de l'enquête qui a été diligentée à ce sujet. Écoutons d'ailleurs les explications du ministre Martin Kabouloulou lors de son passage à Lubumbashi.
Maintenant, je crois que nous devons frapper, nous devons absolument fermer les entreprises qui ne sont pas en règle. C'est comme cette entreprise que j'ai demandé de fermer hier, les entrepôts sont fermés aujourd'hui. La CDM, je crois, qui est fermé depuis hier. Alors on va faire une enquête là-dessus pour savoir pourquoi ils travaillent dans ce désordre. La plupart des arrêtés, s'il y a des avancées ici, c'est parce que déjà nous mettons en mouvement ces arrêtés. Il y a ceux qui ne sont pas respectés des dispositions, ça on est sûr. C'est pour ça que nous tapons très fort, nous fermons, nous arrêtons des exportations. Par exemple, ce que nous avons fait dernièrement, l'interdiction à l'exportation du concentré de cobalt. Tout ça, ce sont des choses que les miniers ne respectent pas. Donc, ils étaient habitués à travailler sans pouvoir être suivis.
Voilà, ils étaient habitués à travailler sans pour autant être suivis. Et aujourd'hui, le ministère des Mines se réveille et décide de frapper, de taper du poing sur la table. Mais il n'y a pas que cette entreprise, hein. Il y a aussi d'autres qui évoluent dans ce secteur, on peut dire en désordre. Qu'est-ce qui va se faire? Est-ce qu'on va continuer? La liste est longue. Certainement que le ministre va nous le confirmer. Alors, est-ce que vous avez recueilli la réaction des responsables de cette entreprise par rapport à ce problème?
Oui, eh bien, nous avons tenté de recueillir la réaction des responsables de cette entreprise. Cependant, nos efforts sont restés vains. Néanmoins, nous avons recueilli la réaction du président de la commission professionnelle des entreprises minières à la FEC Katanga. Il s'agit de M. Eric Monga. On peut l'écouter.
Cette entreprise qui est une fonderie. Une fonderie, ça veut dire qu'elle doit prendre le minerai, quel que soit, d'un titre minier quelque part, attesté par la direction des mines ou son représentant, et ils vont enfourner, mettre dans leur usine de métallurgie, soit dans leur four, ou soit dans le traitement hydrométallurgique, donc par hydro, ou bien par fusion. Et ils ne peuvent exporter que les produits qui viennent de cette usine de transformation, soit des bitères, soit du cuivre cathodique ou un autre concentré de très haut niveau qui a suivi la transformation. Mais s'ils font à partir de leur dépôt relais avant d'enfourner, ils sautent à cette étape-là, il y a faute. Il y a effectivement faute, et là, je crois que le ministre a tous les devoirs de faire ce qu'il fait. Et c'est encore mieux qu'il le fasse, parce que là, c'est pour protéger aussi ceux qui travaillent dans l'ordre, pour qu'on ne les mette pas dans le même sac. Il faut toujours reconnaître que depuis un certain temps, depuis quelques autorités qui sont là, il y a un ordre qui est établi il y a 2 ans. Mais on n'est toujours pas à l'abri de ceux qui veulent se mettre de l'autre côté de la vertu. Et c'est pour ça que l'État est là, pour qu'on punisse ceux qui sont de l'autre côté de la vertu et qu'on laisse calmement ceux qui sont dans l'ordre. Et je vous assure, à ce moment-ci, il y a beaucoup d'ordre.
Oui, en ce moment, on affirme, Eric Monga vient d'affirmer qu'il y a beaucoup d'ordre. Mais est-ce qu'on peut vraiment y croire? Parce qu'on a l'impression que toutes ces entreprises, toutes ces mining qui évoluent dans le Katanga, évoluent dans le désordre. Mais bon, on n'est pas là pour les juger, le ministre est mieux placé que nous. Oui. Mais comment la population a-t-elle accueilli cette décision?
Eh bien, les personnes interviewées soutiennent la décision du ministre des Mines. Cependant, d'autres regrettent du fait que les Congolais qui travaillaient dans ces entrepôts seront aujourd'hui pénalisés, donc ils seront réduits au chômage. Écoutons à ce propos ces quelques réactions que nous avons recueillies.
Mon ville est mine à Ona, confrontant la décision du ministre, il faut bien parce que bande d'exploiter minerais, bon, et beaucoup nous va normal par rapport aux conditions de barbapatia. Et la façon de respecter les conditions du ministre, il faut faire ville une loi à pays.
Baokanaki bongo te kende yo abisa wa minere msusu o ba umba yokanaki te akuma wa samusano o wana eza bongo te me tosina na minisa desizo zui a revoir yango par rapport ya batravayer o bazu sala mingi kuna eza ba kongole bazana ba famille bango so bakangi entreprise bongo ba penalize ba travayer foyer na bango bakumi na difficulte. À revoir décision fixe pour permettre à travers bien pour la situation ils allaient bien te dire sous l'entreprise de voir à travers.
Bon, mais c'est un enfant bien, on veut le pâté en arbre. Mais il faut pas les brûler ou le connaître. À savoir, la terre mature brute,
Ah ah, il est défendu son embrassement, mais il n'a pas l'espoir ou il doit être.
Donc en général, tous approuvent la décision du ministre de fermer cette entreprise chinoise, mais certains ont tout de même relevé un fait, c'est que bon nombre évoluaient là-bas, certains avaient du travail là-bas,
oui.
Aujourd'hui qu'est-ce qu'ils vont devenir?
C'est ça la grande question.
Ils seront au chômage. Hein. Alors on a l'impression que finalement le gouvernement est déterminé à assainir le secteur des mines en RDC, qui a été longtemps marqué par la fraude. Hein.
Oui, aujourd'hui on peut citer parler de la révisitation des contrats miniers, l'interdiction d'exporter les concentrés de cobalt, l'installation du CIC au Katanga, fermeture des dépôts d'une entreprise chinoise, autant de faits qui poussent plus d'une personne à affirmer que l'ordre revient petit à petit dans le secteur des mines gangrénées longtemps par la fraude. Cependant, d'autres sont encore sceptiques. Ils affirment que certains opérateurs miniers qui opèrent dans la fraude bénéficient de la couverture de certaines autorités qui se font régulièrement graisser la patte. En outre, un autre aspect important reste l'encadrement des exploitants artisanaux qui réclament le plus souvent des espaces pour l'exploitation des minéraux.
Alors, on revient un peu en arrière avant de clore ce dossier minier, je dis Kachama,
oui.
Puisque nous savons qu'il y a eu dernièrement l'installation officielle du CEC.
Mmh.
Comment fonctionnera cette entreprise aux côtés de l'OCC, qui apparemment fait le même travail que le CEC?
Oui, en fait, l'OCC contrôle la quantité et la qualité des produits pharmaceutiques et alimentaires. Par contre, le CEC s'occupera de la certification des matières premières précieuses et semi-précieuses. Donc, il faut souligner qu'un contrôle sérieux se fera autour des sous-produits miniers. Donc, il n'y a pas de télescopage entre les deux services de l'État.
On verra. On verra là-dessus prochainement voilà. Avec vous. Je dis que ça va. Et nous rappelons encore une fois à nos auditeurs qu'ils ont la possibilité d'intervenir. Si vous souhaitez le faire directement dans cette émission, appelez-nous à ce numéro. C'est le 0 81 890 63 94. Il ne faut pas nous biper, il faut nous appeler afin que nous puissions vous rappeler et c'est là que vous allez intervenir. Et pour cela, si vous souhaitez envoyer des SMS, vous avez un autre numéro, c'est le 0 81 070 20 50. Merci beaucoup, je dis à la prochaine.
À la prochaine, Nicole.
Souhaitez-vous connaître l'opinion de l'opposition, de la majorité au pouvoir, de la société civile sur l'actualité politique de votre pays? Oui? Alors ne cherchez plus. Radio Okapi répond à votre désir. Du lundi au vendredi, à 20h03, heure de Kinshasa, dans Le Débat. Pour que rien ne vous échappe, le lundi en Lingala, Lisolo. Le mardi en Swahili, Mazungu Muzo. Le mercredi, Le Débat en français. Le jeudi en Chiluba, Muyuki. Et le vendredi en Kikongo, Kinzongi. Ne ratez pas l'émission Le Débat sur Radio Okapi. Du lundi au vendredi à 20h03, heure de Kinshasa.
Martin Kaboloulou, vous êtes ministre des Mines et vous êtes notre invité pour cette question concernant justement les mines ici en République démocratique du Congo. Vous avez pris une grande décision, notamment la fermeture d'une entreprise minière chinoise. Nous parlons des entrepôts dans cette entreprise, mais nous pensons que ce n'est pas l'unique entreprise que vous allez fermer.
Écoutez, c'est celle-là qui a reçu la force de la mesure. C'est la première entreprise qui subit cela. J'espère que les autres ne viendront pas s'aligner à la liste qui va bientôt commencer. Je crois que le CMD, comme je l'ai vu, ces entrepôts mal organisés, mal administrés, je crois que elle pourra, cette entreprise, telle que je l'ai entendu ici, les réactions des travailleurs, elle doit absolument prendre des travailleurs qui sont dans le dépôt et les utiliser ailleurs. Ça peut arriver, ça, ils peuvent bien le faire. Et en deuxième lieu, j'ai demandé que cet entrepôt soit mis dans l'état d'une bonne salubrité, d'une hygiène tout à fait rationnelle, disons. Alors, ces travailleurs qui doivent, en principe, peuvent être utilisés à la remise en état de cet entrepôt. Moi, je ne crois pas qu'ils puissent, les entreprises puissent absolument recourir au licenciement des gens. elle peut trouver un autre moyen pour utiliser ses travailleurs.
Alors, qu'on se comprenne, ce n'est pas l'entreprise qui est fermée, mais c'est plutôt les entrepôts de cette entreprise
qui sont fermés. Les entrepôts qui sont fermés.
Et l'entreprise continue à fonctionner ?
Continue à fonctionner.
Mais ça veut dire quoi ? Parce que bon, si l'entreprise continue à fonctionner.
Oui, c'est-à-dire.
C'est comme si la mesure ne frappe pas vraiment l'entreprise.
Cette,
hein.
Cette entreprise a trois dimensions, c'est-à-dire. Elle a un entrepôt vers le côté de la Russie, elle a les bureaux administratifs du côté du Golfe, et elle a une usine, un concentrateur à 170 km de Lubumbashi. Donc ce sont les entrepôts que nous avons attrapés en train, dans cet état-là, et nous les avons fermés, c'est tout à fait normal. Alors, nous ne sommes pas allés au bureau administratif, nous ne sommes pas allés à l'usine. Donc, c'est l'entrepôt seulement qui est frappé.
C'est verbal, c'est l'expérience, monsieur le ministre.
Oui, c'était verbal ce jour-là, mais il y a déjà un document qui est déjà sorti. Donc, cet entrepôt est vraiment sous scellé.
Alors, Congo Dong Sand Mining continue à fonctionner comme si de rien n'était. C'est seulement l'entrepôt en question, l'entrepôt que vous avez ciblé.
C'est l'entrepôt que nous avons ciblé, et ce n'était pas un hasard. C'est parce que nous avons suivi un documentaire quelque part de ces entrepôts. C'est ça qui nous a permis de descendre sur les lieux. Et ce que nous avons vu dans ce documentaire était tout à fait juste. Je l'ai vécu, je l'ai vu. D'ailleurs, j'ai demandé en plus que le directeur de la DGM Katanga voie tout de suite là les papiers de tous les Chinois qui travaillent dans cet entrepôt.
Alors, monsieur le ministre, puisque nous parlons des entreprises qui évoluent dans le Katanga, est-ce que vous avez une idée au moins du nombre des entreprises minières qu'on retrouve dans la province de Katanga ?
Oui, une idée, c'est-à-dire les entreprises doivent se subdiviser en deux groupes. Il y a les entreprises qui sont titulaires des droits miniers. Ces entreprises se comptent au nombre d'une soixantaine. C'est-à-dire ceux qui ont les permis d'exploitation, qui ont commencé par être des entreprises qui ont eu des permis de recherche. Il y a des entreprises qui sont en partenariat avec la GECAMINE. Au total, ces entreprises se comptent au nombre de 60. Alors, à côté de ces entreprises, il y a ces entreprises fondeurs qui ont reçu des autorisations du ministre pour pouvoir transformer les minerais qui sont achetés chez les artisanaux. Ces entreprises se comptent aussi au nombre d'une centaine. Alors, vous voyez, nous devons absolument appliquer la rigueur, sinon ces entreprises qui évoluent au Katanga sans contrôle, sans pouvoir respecter le code minier, ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous ouvrons de plus en plus l'œil pour que elles puissent, ces entreprises de deuxième groupe, pour qu'elles puissent travailler dans l'ordre et en application du code.
Oui, bon, alors là, on retient qu'il y a des grandes et des petites entreprises. Des entreprises qui évoluent avec tous les papiers qu'il faut, avec les titres miniers, et d'autres qui évoluent comme ça, sans pour autant avoir un seul document.
Non, ce n'est pas ça. Il y a des entreprises, quand je dis des entreprises qui ont des titres miniers, c'est parce que le code minier différencie les titres miniers, donc il les énonce, il les liste comme ceci. Le titre minier, c'est le permis de recherche. Le titre minier, c'est le permis d'exploitation. Le titre minier, c'est le permis d'exploitation de petite mine. Et le titre minier, c'est également le permis d'exploitation du régime. Alors, il y a des entreprises qui sont titulaires de ces droits. Alors, il y a d'autres, par contre, qui ont implanté des entités de transformation des minerais. Ces entreprises-là reçoivent l'autorisation du ministre pour pouvoir fonctionner. Donc, elles ne peuvent pas commencer à fonctionner tant que le ministre donne l'autorisation.
Alors, est-ce que Congo Dong Sand Mining avait une autorisation du ministre pour fonctionner?
Tout à fait. Et là, l'autorisation du ministre pour fonctionner.
Et tous les papiers qu'il faut, tous les documents qu'il faut.
Tous les documents qu'il faut. Le problème qu'il y a, c'est cette insalubrité, c'est ce désordre que nous avons trouvé. Les minerais stockés à même le sol et surtout cette machine qui pilait le minerai.
Mais il faut reconnaître une chose, monsieur le ministre, c'est que aujourd'hui, si vous avez décidé de fermer les entrepôts de cette entreprise, c'est tout à fait parce que vous êtes tombé, je dirais, par hasard. vous avez vu que les contrats d'hygiène n'étaient pas respectés. Sinon, jamais on aurait fermé les entrepôts de cette entreprise chinoise, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr. Vous savez, Nicole, dès qu'on commence quelque part, ça veut dire que les autres ont entendu cette mesure et les autres vont commencer à s'appliquer maintenant.
Mais le problème, il est ailleurs, hein, monsieur le ministre. Aujourd'hui, bon nombre n'hésite pas à affirmer que la plupart des entreprises qui évoluent dans le Katanga n'ont pas de titre. N'ont pas de titre minier pour le faire. Certains vont plus loin et ils disent qu'ils ont carrément le parrainage du ministre. Donc, ils n'ont pas les documents qu'il faut pour évoluer dans le secteur minier, monsieur le ministre.
Non, ce n'est pas juste, Nicole. Toutes les entreprises qui évoluent au Katanga ont des titres miniers. Le problème, c'est quoi? Parmi ces entreprises qui ont des titres miniers, qui ont autorisation de pouvoir fonctionner au Katanga, il y a des entreprises qui veulent tout simplement faire de la fraude. Il y a des entreprises qui ne respectent pas le plan d'environnement. Il y a les entreprises qui, comme celles que nous venons de fermer, vous voyez, il n'y a personne qui l'a autorisé à acheter, disons, à mettre cette usine, cette machine pour broyer à la main, pratiquement manuellement.
Tout à fait. Alors, comment vous allez vous y prendre pour maintenant savoir que cette entreprise qui évolue correctement, qui respecte les conditions d'hygiène, qui ne recourt pas à la fraude, quelles sont les stratégies que vous comptez utiliser pour bien faire votre travail, monsieur le ministre?
Les stratégies, ce sont lesquelles? Je compte beaucoup sur l'administration des mines, je compte sur la direction de l'environnement et je compte sur tous les chefs de division que nous avons, à qui nous avons tiré les oreilles ici. C'est ce personnel qui doit absolument m'aider à mettre de l'ordre dans le secteur. Le ministre lui-même ne peut pas aller dans les usines, ne peut pas aller en même temps aller vérifier ceux qui exportent, il ne peut pas aller vérifier en même temps les gens qui sont dans l'exploitation artisanale. C'est une amalgame de services que nous voulons mettre sur pied, qui doit aider le ministre d'une manière tout à fait sérieuse, rationnelle, à pouvoir trouver un résultat positif.
Oui, Martin Kabeloulou, nous rappelons encore que vous êtes ministre des Mines. Il faudrait retenir une chose, que dans notre pays, nous sommes dans un système déclaratif. Et aujourd'hui, la fraude est beaucoup plus constatée autour de sous-produits de métaux majeurs. La présence des CEC au Katanga, c'est pour aider peut-être la bonne marche de cette lutte contre la fraude. Ben alors, concrètement, parce que cette entreprise, tout à l'heure, travaille en hydrométallurgie, il n'y a aucune d'entre elles qui travaille en bureau métallurgie. Ce ne sera pas facile pour vous de détecter les fraudeurs.
Et non, écoutez, nous avons installé le CEC justement pour ça. C'est pour pouvoir que les déclarations qui sont faites par les opérateurs miniers soient contrôlées par le CEC. Donc il y aura un bulletin d'analyse qui viendra des laboratoires et le CEC sera là pour refaire contre-expertiser les résultats des laboratoires. Alors le CEC facturera en fonction de ce qu'il aura déterminé. Je crois que cette façon de faire pourra nous aider à pouvoir éliminer la fraude de plus en plus. Et je compte aussi faire un contrôle prochainement dans toutes ces usines. Nous avons mis sur pied une équipe de géologues qui pourra faire le tour pour pouvoir contrôler justement ce système de transformation de minerais si jamais il n'y a pas de fraude dedans.
Oui, il y a un autre aspect, ce sont des déchets, parce que bien qu'étant dans un système déclaratif, aujourd'hui, toutes les entreprises peuvent contourner cette vérité ou la présence des CEC à partir des déchets obtenus de ces traitements. Est-ce que n'allez-vous pas prendre des mesures autour de ces déchets ou peut-être proposer une décharge finale où toutes les entreprises vont déposer des déchets?
Mais justement, les déchets, il n'y a pas une loi sur les déchets. Moi, c'est l'idée que j'ai à ce que toutes les entreprises qui transforment les minerais, que les déchets qui viennent de cette transformation puissent être propriété de l'État. Mais je n'ai pas encore mûri cette idée. Je vais essayer que mes services étudient cette idée de récupérer les déchets et de les déposer quelque part pour que plus tard, en 100 ans, ces déchets puissent servir à des générations futures. Le cas de la Gécamine, justement, la montagne de terril que vous voyez à Lubumbashi, cette montagne a commencé depuis 1905-1910. Voilà le résultat que ça donne. Ces déchets qui ont des sous-produits, du cuivre, du zinc, du cobalt, voilà, ce sont des déchets qui servent maintenant. Nous allons installer des usines à côté. Il y a déjà une usine qui est déjà à côté, qui produit de l'argent pour l'État.
Alors parlons du contrôle que va effectuer le CSC. D'aucuns évoquent déjà certains télescopages avec l'OCC, parce que l'OCC fait pratiquement le même travail. L'OCC a un laboratoire approprié, le CSC pas encore.
Écoutez, il n'y aura pas de télescopage du tout, parce que le CEC est une entreprise de l'État. L'OCC est une entreprise de l'État. Lorsque vous voyez les statuts de ces deux entreprises, leurs missions diffèrent. L'OCC a la mission de contrôler les médicaments, la mission de contrôler les aliments, oui. Tandis que le CEC, au Katanga, a mission de contrôler les sous-produits qu'on trouve dans les métaux majeurs, le cuivre, le cobalt. Et le CEC, sa mission de voir si dans ces métaux majeurs, à l'exportation, il n'y a pas des matières précieuses.
Est-ce que c'est très équipé pour faire cette vérification?
Écoutez, pour l'instant, nous allons croire tout simplement à la déclaration de l'opérateur minier. En attendant que le CEC, qui a acheté deux spectromètres, justement, nous commençons, il y a un début. Nous sommes dans les débuts, nous ne pouvons pas accepter que maintenant que le CEC, nous avons pris les mesures.
Mais il aurait été équipé, le CEC, dès le début.
Et tout à fait, mais le CEC a commencé en 2003. C'est toutes ce sont les défaillances que nous sommes en train de découvrir et de pouvoir
Donc, ça veut dire aujourd'hui que le CEC va évoluer sans pour autant avoir tous les moyens nécessaires.
Aujourd'hui, je vous dis que le CEC n'a pas encore son laboratoire, mais son laboratoire est déjà commandé. Il va arriver, je crois, le mois prochain, on pourra le monter.
Mais monsieur le ministre, parce que là, on parle de l'exportation, on parle aussi de l'importation. On aimerait savoir, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de nouveaux termes qui ont de plus en plus d'actualité. On parle des déchets, des sous-produits, mais est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'exploitation minière ici au Congo, les exportations que nous faisons en RDC?
Oui, bien sûr. L'idée, actuellement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui exportent les minerais. Il y a toutes ces entreprises qui font la transformation, dont je viens de vous parler, qui ont reçu les autorisations du ministre. Il y a les entreprises qui ont des titres miniers, comme la Gécamine, chez MAF, il y a Boss Mining, qui sont en production et qui peuvent exporter. Bon, l'exploitation minière en général, telle que vous venez de poser la question, l'exploitation minière en général au Congo, la plupart de son socle, si vous voulez, la base se trouve au Katanga. Et nous avons, il y a eu en 2002, l'institution du code minier. Ce code minier, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été appliqué comme il le faut. C'est des ordres là que vous voyez. Et j'ai eu à convoquer les États généraux des mines. Et les États généraux des mines, à l'issue de ces travaux, nous avons des résolutions qui peuvent nous aider à reformer complètement le secteur minier.
Donc, petit à petit. Donc pour l'instant, on ne peut plus savoir combien on exporte, notamment le cuivre
et le cobalt.
On ne sait pas, le cobalt.
Par rapport à l'année dernière.
Il y a une idée déjà, mais les statistiques sont tout à fait différentes. Il n'y a pas eu des services qui ont tenu vraiment des statistiques. C'est pratiquement quelque chose que nous sommes en train de mettre sur pied.
Donc, ça veut dire que depuis tout ce temps, toutes ces années, on travaillait en fonctionnant en désordre.
Mais tout à fait, je vous dis que c'était grave. Je l'ai dit.
Et ça continue, parce que jusque-là, on ne peut pas savoir combien on exporte. Dans le cuivre, on ne sait pas.
Jusque-là, il n'y a pas de statistiques fiables. Il n'y a pas de statistiques fiables d'exportation du cuivre et du cobalt.
Mais même pas une idée, ça tourne autour de combien à peu près? Est-ce que c'est par rapport au Rwanda, au Burundi, qui des statistiques sont connues, qui tournent autour de 12 tonnes, si c'est ma bise, voire même 18? Est-ce que nous le sommes, disons, au bas de l'échelle, ou peut-être...
une comparaison.
Oui, une comparaison. Bon, écoutez, en or, par exemple, en 2006, le Congo a exporté seulement 120 kilos d'or. Bon, le cobalt qui a été exporté en 2006, je crois, parce que les statistiques 2007, on est en train de les faire, le Congo a exporté plus ou moins 30 à 40 000 tonnes, tout simplement. Le cuivre qui est sorti de notre pays se situe aux environs de 150 000 tonnes. Ouais, ce n'est pas du tout ce que nous souhaitons. C'est pas du tout la vision. La vision actuelle, c'est de faire en sorte que nous puissions, à la fin de cette année-ci, nous sommes en train de faire d'identifier toutes les entreprises qui sont en train de produire maintenant.
Vous les connaissez, hein?
Nous devons les connaître. Tout à fait. Nous devons les connaître à la fin de l'année. Nous devons pouvoir publier des statistiques fiables.
Et tout de même, sur l'excellence, monsieur le ministre, reconnaissons que la relance de secteur minier constitue quand même une certaine problématique. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur cette problématique de la relance du secteur? Vous avez évoqué le non-respect du code minier, mm-hmm. et puis la fraude de sous-produits. Est-ce qu'il y en a, mis à part le 2, il y a d'autres aspects?
Si, il y a d'autres aspects, parce que pour l'instant, le secteur minier compte surtout sur l'exploitation artisanale des ressources, des minerais. Parce que toute l'industrie était tombée presque en décadence, si vous voulez. Alors, ce sont les artisanaux qui, en principe, sont en train de relever la production minière. Quand vous voyez le diamant, les statistiques du diamant, c'est la production artisanale qui est le plus élevée. Parce que l'AMIBA, qui faisait du diamant industriel, est tombée presque...
Et puis c'est artisanal entre guillemets, hein, parce que d'après les informations qu'on a, ces entreprises n'évoluent pas de façon artisanale, hein, monsieur le ministre.
Non, les artisanaux, ce sont les exploitants, ce sont les creuseurs. Ce sont des individus qui ont acheté des cartes de creuseurs et qui travaillent, qui revendent à des comptoirs.
Mais ils travaillent comme des entreprises.
Non,
ils travaillent comme des industriels.
Non, ils travaillent comme des
individuels. Ils équipés.
Non, ils travaillent individuellement, peut-être ce que vous faites allusion au CESCAM, parce que le CESCAM est un service public qui dont la mission est d'encadrer les exploitants artisanaux. Mais sinon, l'exploitant artisanal, c'est un individu qui a acheté sa carte d'exploitant artisanal et qui travaille pour son compte. Souvent, nous sommes en train de les encourager à s'unir en coopérative, parce que ce sont des hommes et des femmes qui, une fois vendre son produit, l'argent, donc le revenu de sa vente, il ne peut pas l'utiliser. Ce sont des gens qui vivent pratiquement au jour le jour. Alors, nous essayons de les réunir en coopérative. C'est peut-être ces coopératives que vous dites que ce sont des gens.
Aujourd'hui, parce que selon les sources, le trésor artisanaux au Katanga vient de récupérer les 6 gisements qui leur appartenaient. Est-ce qu'on peut dire que c'était l'effort du ministre?
Bon, écoutez, les 6 concessions appartenaient à la Jutamine, c'est ça la réalité. Mmh. Au début, ces concessions étaient, dans ces concessions, il y avait des zones d'exploitation artisanale. Mais finalement, dans les 5 concessions qui étaient récupérées par l'ancien pouvoir qui était là, alors, il y a 3, on les a attribuées à 3. À 3 opérateurs miniers. Mais en principe, ces concessions appartenaient à la Jutamine, et ce que nous avons fait, nous avons pris la décision de remettre ces concessions à la Jutamine, la Jutamine, c'est un ordre que j'ai donné, se concerte avec le gouverneur et de créer dedans des zones d'exploitation artisanale.
Mais la population n'est pas dupe. On a l'impression que ces artisanaux, c'est juste une impression, monsieur le ministre, on leur laisse, une partie qui est à faible teneur.
Non, pas du tout. Vous savez, il y a les artisanaux, ce sont des hommes qui travaillent à la main. Hein, et lorsqu'ils commencent à travailler, ils trouvent la terre dure. Lorsque la terre est dure, parce que le minerai ne se trouve pas à un mètre du sol, il se trouve peut-être à 5-6 mètres. Alors, ils doivent creuser quand la terre est dure, c'est pour ça qu'ils font beaucoup de problèmes. ils cherchent à aller là où les tracteurs ont déjà fait la découverture, et en ce moment, ils peuvent faire bien le travail. Et souvent, là où le tracteur a travaillé, c'est souvent des tarés des autres.
Monsieur le ministre, il y a beaucoup de réactions qui nous arrivent. On va écouter certainement le point de vue de quelques personnes qui ont souhaité également intervenir dans cette émission. Mais une chose est certaine, c'est qu'hier encore, la RDC n'attirait pas autant d'entreprises. Hein. Aujourd'hui, c'est comme si la RDC devient le nouvel Eldorado hein, de pas mal de gens. On a les Chinois, on a beaucoup de nationalités. Hein. Monsieur le ministre, on peut croire ça, hein, finalement, que la RDC devient un nouvel Eldorado. Que devient finalement la vitamine, que devient la MIBA, toutes les entreprises qui existent encore hier.
Oui, bien sûr, la vitamine, vous savez bien.
Elle n'existe plus que de nom aujourd'hui. Hein.
Non, pas du tout. La vitamine est en train de se refaire la vie, la MIBA également. La vitamine, en 2002, lorsque, après le conflit, vous savez bien, l'économie du pays était tombée par terre. La vitamine.
Entreprise en faillite aujourd'hui. Hein.
Non, la vitamine n'a jamais déclaré une faillite. La MIBA non plus. Elle n'a jamais déclaré faillite.
Mais on peut y croire. Non, parce qu'il n'y a pas eu de déclaration, monsieur le ministre.
Non, une faillite, il faut la déclarer. Hein. Il ne faut pas y croire à la faillite. Il faut déclarer la faillite.
Mais ça me donne une question à dire. Donc, qu'en est-il de joint venture? Est-ce que ça a ajouté une valeur? Y a-t-il une valeur ajoutée dans notre politique minière?
Ben justement, en 2002, j'allais en venir, en 2002, lorsque le pays était en difficulté économique, on a cru qu'en faisant des partenariats, donc des JV, de l'aventure, avec les entreprises publiques minières, le pays allait se retrouver économiquement. Mais c'était tout à fait faux. Dix ans après, donc il y a des JV qui ont été créés depuis 96-97, 10 ans après, on n'a rien vu. Ce sont des entreprises qui, en fait, ont tout à fait agi de telle manière que le pays n'a rien récolté du tout. C'est d'ailleurs le but de la revisitation de tous ces contrats qui ont été signés à cette époque-là.
On va en reparler, monsieur le ministre. Le temps pour nous de suivre le point de vue d'un monsieur. Il s'appelle Rachid. Il est membre de l'ONG LICOF, Ligue contre la corruption et la fraude. Nous allons suivre son point de vue à ce sujet et puis juste après nous revenons à vous.
Par rapport à ce que le ministre est en train de dire, il parle que c'est la fin de la récréation. Moi, je suis un peu plus sceptique. Je suis en plaisir et je suis en train de voir tout ce qui se passe dans ce domaine. Je crois qu'il a du pain sur la planche. Il ne veut pas déjà proclamer que c'est la fin de la récréation. C'est-à-dire que le début vient en train de commencer. Je ne crois pas qu'il va arriver au bout. Il peut peut-être terminer son mandat sans arriver. Je vais donner juste un exemple à Lubumbashi. Au niveau de tabac Congo, on arrête même au terminus là aux arrêts et on appelle ça Exaco. Il y a une usine qu'on vient d'installer qui est en plein centre, vraiment en plein centre. Les maisons sont vraiment à côté de l'usine, vraiment voisines. Alors, je suis en train de me demander comment cette usine, qui a d'abord ordonné, la population est en train de se demander qui a ordonné qu'on puisse installer cette usine à cet endroit-là. Si vous y allez, vous n'allez pas accepter qu'une usine puisse fonctionner dans de telles conditions. Puisqu'on se demande les déchets toxiques, apparemment, puisque quand ça coule dans l'avenue, il y a une avenue juste à côté, la terre devient blanche, là, la terre, là, sur l'avenue, où passent les gens, même les parcelles qui sont voisines. Je me demande comment le ministre peut-il tolérer, lui qui suspend CEDEM, je comprends bien, je connais un peu l'historique de CEDEM, bon, on peut lui donner raison, mais qu'il a justifié cette usine-là, qu'il nous dise s'il peut encore ordonner que cette usine-là continue à fonctionner.
Monsieur le ministre, la balle est dans votre camp. Hein.
Tout à fait, la balle est dans mon camp, mais il ne faut pas que. C'est parce qu'il y a tout simplement une continuité d'institution. Hein. Je suis en train, peut-être j'assume tout ça, mais je suis en train de faire un effort, monsieur qui a posé cette question.
Monsieur
c'est
Munda,
un effort.
Picolési.
Oui, de Picolési, merci, monsieur Munda.
Mumba,
merci beaucoup. J'affirme certainement qu'il y a encore du désordre, mais je vous assure, je vous donne rendez-vous, si Dieu nous prête vie, je vous donne rendez-vous au mois de décembre. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez pas au mois de décembre.
C'est un défi que vous interrogez.
Tout à fait, c'est un défi que je...
Mais rien ne garantit que vous allez réussir.
Non.
Le désordre est à un
certain
niveau.
La détermination, Nicole, que j'ai, doit faire en sorte que nous devons réussir. Le gouvernement doit réussir.
Mais on est là, monsieur le ministre. Revenons à Rachid qui nous en parle justement.
Oui, la Licof a toujours dénoncé, n'est-ce pas, toutes ces entreprises sino-indiennes qui sont au Katanga, qui pullulent, qui ne respectent pas ni les conditions environnementales, rien du tout. Et ces entreprises sont en train de travailler au mépris, n'est-ce pas, de la loi congolaise. Et donc, pour nous, si le ministre pouvait aller très loin avec sa décision, ça pourrait, n'est-ce pas, réjouir certaines ONG qui luttent contre la fraude et surtout contre la corruption.
Vous comptez aller très loin, monsieur le ministre ?
Ça fait très loin parce que maintenant, je viens de il faut que le peuple congolais le sache, je viens même de décider d'interrompre, de donner d'autres autorisations à ces usines. J'ai fait promener une circulaire pour que toutes ces entreprises qui sont au Katanga puissent se mettre bien prêts parce que le 30 juin, c'est la fin, donc toutes les conditions environnementales doivent être remplies. Et chaque entreprise doit pouvoir, comme je l'ai dit, doit pouvoir se mettre, en ordre, tout à fait. Et le 1er juillet, dans la circulaire que j'ai déjà signée, le 1er juillet, ce sera un contrôle général de toutes les entreprises.
Je crois
le 1er juillet de cette année.
Oui, excellent, se revenir un peu sur les états généraux des mines, parce que après les états généraux, vous avez eu à faire un point de presse annonçant ainsi le rapport final de cette commission qui statuait sur la révisitation des contrats. Alors, la question que l'on se pose, qu'en est-il du panel qui devait être mis sur pied pour faire les suivis?
Pas qu'il devait être mis sur pied, le panel existe déjà. D'ailleurs, ce soir à 17h, nous avons une réunion, ce sera la deuxième réunion que nous allons faire sur le panel. Nous croyons que le mois qui commence, le mois de juin, ce sera un mois de travail. Nous allons commencer déjà à inviter les entreprises pour une négociation. L'État, le gouvernement donc, a donné des exigences à ces entreprises. Il y a ces entreprises qui ont répondu, d'autres ont répondu dans le sens des exigences du gouvernement. Ces entreprises-là, ce sera des contrats qui seront négociés facilement. Par contre, il y a d'autres qui ont fait pratiquement de la résistance. Nous allons voir peut-être dans la renégociation, nous allons peut-être aboutir à quelque chose, à une conclusion.
Cette révisitation des contrats aura-t-elle un impact sur, je reviens à la question que j'avais posée précédemment, sur la relance du secteur minier?
Tout à fait, il y aura un impact, c'est-à-dire nous voulons que dans ces entreprises, dans ces contrats signés plus tôt, le déséquilibre qu'il y a eu dans le partage des parts sociales puisse être réglementé. Ça c'est un. Nous voulons que les conditions qui n'ont pas été respectées à la signature de contrat soient respectées. Par exemple, il y a des entreprises qui, des partenaires qui ont promis de payer des pales-portes qui n'ont pas fait. Ce n'est pas la chasse à l'homme. Nous voulons tout simplement que les conditions passent. C'est noir sur blanc. Nous l'avons lu dans les contrats. Et lorsque nous le remarquons aujourd'hui, c'est que ces exigences que les entreprises publiques et le gouvernement à cette époque-là avaient demandé, les partenaires privés ne les ont pas remplies. Nous voulons que ces partenaires remplissent d'abord ces conditions, payent les pas de porte, les soldes de pas de porte qui devaient payer au début, qui payent les royalties qui doivent payer selon la production, qu'ils payent qu'on régularise le loyer d'amodiation qui est tout à fait dérisoire, qu'on puisse remonter le loyer. Nous avons fait un petit travail de ce que l'État pourra récupérer maintenant. C'est intéressant. Je ne saurais pas vous dire le montant qui est déjà sur le papier, mais c'est vraiment intéressant.
Oui, merci à Kaboudelou. Nous rappelons encore que vous êtes ministre des Mines. Vous êtes très suivi aujourd'hui à travers Radio Capi et toute la RDC vous suit, raison pour laquelle nous recevons des réactions qui viennent de partout. Il y a un auditeur qui nous dit ce qui déçoit les gens, c'est que le ministre prend des décisions officiellement, mais officieusement. Il donne des injonctions contraires à ses décisions. C'est son point de vue. Nous avons également un autre qui nous dit le ministre doit aussi sanctionner la société Banro, vous connaissez cette société peut-être, qui ne respecte pas le code minier et pylore à Lougoussoua sous prétexte de prospection. Ça, c'est son point de vue, s'appelle Guy depuis Kitutu. Alors, comment réagissez-vous face à leurs préoccupations, monsieur le ministre?
Écoutez, quand quelqu'un dit je prends des mesures et puis je donne des injonctions, contraire, mais il aurait pu peut-être donner un exemple de ça. Hein, je crois qu'il n'a pas d'exemple à donner. Hein. Quand je prends une mesure, je la maintiens, je suis. Il y a des mesures dont l'exécution se fait, le résultat ne se voit pas maintenant. Hein, il faut attendre. C'est ainsi que je dis, des contrôles vont arriver. Banro, on me dit de sanctionner Banro. Bon, Banro a signé une convention, Banro, il est en révisitation de contrat, le panel va pouvoir s'occuper de Banro.
Donc déjà, Banro est dans, pratiquement au banc des accusés.
Non, je ne dis pas au banc des accusés, il n'y a pas eu d'accusés, il n'y a pas eu de... c'est pas ça le but du panel de la révisitation des contrats. Le but, c'est de remettre les conditions des contrats en équilibre.
Je reconnais tout de même qu'au niveau de contrôle, il y a quand même une certaine négligence de la part des agents commis à ce poste.
Et puis,
aujourd'hui, pour le permis de recherche, certaines entreprises confondent le permis de recherche et le permis de l'exploitation. Le contrôle n'est pas si.
Et puis je complète la question de JR. Vous savez, le secteur minier aujourd'hui attire pas mal de monde. Qu'est-ce qui nous garantit que ces gens vont bien faire leur travail? Qu'est-ce qui nous garantit qu'ils ne seront pas corrompus? Monsieur le ministre, la tentation est forte, hein, vous savez.
Écoutez, la tentation est forte. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens tendent toujours à. Justement, je suis en train de me poser cette question. Hein, c'est que. Pourtant, en travaillant correctement dans les mines, on peut
mais alors, la jungle a tellement duré que je dis bon. Hein.
Vous savez, Nicole, JR, que j'ai trouvé 4500 permis de recherche, dans toute espèce confondue. Aujourd'hui, j'ai fait un contrôle à l'aide du cadastre minier, il y a plus ou moins 1900 permis de recherche qui doivent tomber. Absolument. Parce qu'il y a des gens qui ont pris des concessions, mais jusque-là, on ne voit rien. Parce qu'il y a des gens qui ont pris des concessions, qui ont cru qu'en prenant un permis de recherche, hein, on aura engagé des gens et à commencer à creuser. Alors que le permis de recherche, lorsqu'on l'a, il faut absolument aller faire la recherche et identifier un minerai, un gisement, une ressource minérale. C'est ça le but du permis de recherche. Mais les gens ont pris ce permis, et ils ont engagé des villageois pour creuser et ils commencent à exploiter. Ça, c'est une faute absolument. C'est une faute. Et nous sommes en train de récupérer ces concessions de toutes ces personnes-là qui ont cru que c'était chose facile. Investir dans les mines, il faut avoir de l'argent. Pour tous ces gens qui n'ont pas respecté tout ça, nous allons récupérer ces permis.
De développement, parce que le développement durable, ce n'est pas seulement l'affaire des Congolais, mais c'est aussi l'affaire des opérateurs miniers étrangers qui évoluent dans notre pays. Selon nos sources, vous avez même demandé à certaines entreprises de s'impliquer totalement vers les actions de développement. Alors ceux-là qui ne vont pas, répondre à vos mesures, seront-elles frappées?
Écoutez, JR, je sais que après les journées minières, nous sommes en train d'élaborer un document de politique générale des mines. Et nous devons y aller par étapes. C'est pas pour rien que nous avons fermé l'exportation du concentré de cobalt. Parce que le but, c'était de faire de la valeur ajoutée sur nos minerais. Et le but également, c'était de faire en ce que les opérateurs miniers qui ont la capacité financière viennent installer des usines de transformation de minerais jusqu'au métal brut. Comme par le passé avec le lingot du cuivre de la Gécamine. Mais, plus tard, il faudra qu'en 2011, le pays puisse transformer le métal brut en produit fini. C'est ça, en principe, nous devons y aller par étapes. Alors, toutes ces entreprises qui sont en train de freiner cet élan de politique générale dans les mines, c'est parce que ces entreprises, nous ne pourrons pas marcher avec elles. Vous comprenez?
et surtout favoriser l'agriculture, parce que dans certaines provinces, la population a été habituée à, ou peut-être la majeure partie de la population est agro-pastorale. Aujourd'hui, qu'on leur a amené un autre fond des clauses, c'est-à-dire les secteurs miniers, il y a une ruée terrible. Pourquoi ne pas aussi encourager ces entreprises à pouvoir se lancer dans l'agriculture et aussi aider la population à retrouver leurs amours?
Tout à fait, Gilles. Nous y avons pensé. C'est ça la mission du CFCAM, en principe. C'est de préparer les gens à l'après-mine. Parce que les mines, ce sont des ressources épuisables. Tandis que l'agriculture, ça vient, on cultive, on a de la nourriture. Bon, le CFCAM a ce but-là, c'est-à-dire d'encadrer les gens, ceux qui sont dans les mines, surtout les artisanaux, et petit à petit, ou bien on les rend des petits industriels, ou bien, alors, on les reconduit dans l'agriculture.
Oui.
C'est ça le but de ce service public.
Aujourd'hui, que le CSCAM n'a pas assez de moyens de sa politique.
Tout à fait, il n'a pas assez de moyens. Hier, nous sommes en train de rechercher les moyens pour CSCAM, ne fût-ce qu'en prenant, même dans les taxes, un petit rien pour que le CSCAM puisse.
On verra si ça évoluera bien, monsieur le ministre. Martin Sabonelou, des réactions qui nous arrivent un peu en retard. Il y a Mumba qui revient.
Oui.
Depuis Colézé, qui nous dit que le gouvernement provincial du Katanga a suspendu les exportations de First Quantum de Falcania. Cette affaire a fait couler beaucoup d'encre de salive. Quelle est la réaction du ministre sur ce sujet? Nous avons également un autre qui nous dit que dit le ministre sur l'affaire Louis-Chad, le lycée Louboucha. C'est un scandale pour nous, les anciens de cette grande école. Donc vous avez deux réactions rapidement, monsieur le ministre.
Oui, rapidement, écoutez, oui. La société Comissa qui m'a interdit d'exporter, c'est tout à fait malheureux parce que cette entreprise ne rentre pas dans la vision du ministère des Mines. L'historique est très long. Hein. Rapidement, je vous dis que cette entreprise a fait quelque chose que, si je vous raconte, c'est inouï, c'est extraordinaire. First Quantum a implanté un tapis roulant qui prend les minerais de chez nous et le dépose directement sur un tapis roulant dans un magasin construit en
ville. Vous
voyez, justement, on ne peut pas accepter des choses pareilles.
Mais vous, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Puisque la décision vient du gouvernement provincial.
Non, cette décision a été faite avant même que le gouvernement provincial ne soit installé. C'est une affaire, une très longue affaire, sur lequel nous sommes depuis 10 ans. Tout à fait, nous y sommes déjà penchés. Nous avons autorisé cette entreprise, qu'elle a construit un grand concentrateur. Nous avons autorisé que ce système continue avec le contrôle de tous les services de l'État. Mais la mesure que nous avons prise, c'est que cette entreprise doit pouvoir construire ici, au Congo, le magasin qu'il a construit de l'autre côté. Alors, lui, ça, c'est une affaire qui date de 6 mois. Mm. La mesure de délocalisation de l'UICA, ce n'était pas une mesure. C'était tout simplement une concertation que j'ai faite avec les trois entreprises minières qui utilisaient les orpailleurs, donc les creuseurs autour de l'UICA. Alors, moi, ma peur, c'était quoi? C'est ces enfants-là qui font l'exploitation artisanale font des galeries en dessous de l'école. Mais on a risqué qu'un jour, cette école ne puisse s'effondrer. Alors, ces trois miniers avaient l'intention de construire un complexe à côté. Je suis sûr que, parce qu'on a interdit que ces orpailleurs ne viennent travailler, mais je suis sûr qu'ils viennent la nuit et ils font des galeries en dessous de cette école. Je suis sûr que cette école va s'effondrer.
Alors, vous allez aussi vous dépenser.
Non, écoutez, moi, j'ai presque abandonné ce dossier, mais les gens, ils reviennent trop souvent, mais...
Il y a encore un problème, monsieur le ministre.
Tout à fait, il y a encore un problème.
On aura à revenir sur d'autres questions avec vous prochainement, monsieur le ministre. On vous a accordé beaucoup de temps, mais on en reparlera parce que le secteur minier, c'est vraiment un domaine d'actualité et puis c'est vaste. Hein. Allez, on va vous remercier, Martha Cabolou, d'avoir été des nôtres et nous rappelons que vous êtes ministre des Mines. Merci encore et à la prochaine.
Merci, Nicole. Merci, Gilles.